Les lieux comptent beaucoup, beaucoup pour moi. Ils alimentent mon travail. Par exemple, quand j'ai préparé Jaco de Nantes, j'avais retrouvé donc le garage même où Jaco avait été élevé. C'était un petit peu difficile d'obtenir ce garage, parce qu'ils avaient compris que je le souhaitais énormément, donc les enchères étaient dures. Et je me souviens que Jacques Demy me disait, bah, écoute, prends n'importe quel garage, c'est du cinéma, mets-toi au garage d'à côté, n'importe quel garage nantais, tu tournes mon enfance. Et je disais, non, j'ai besoin du vrai garage, parce que les murs, les lieux, une sorte d'énergie et de magie qui sort des lieux, ce qu'on appelle le génie du lieu, m'inspire énormément. Et j'ai finalement, avec grande difficulté, obtenu le vrai garage où Jacques Demy avait été élevé. Et je crois que j'ai tourné mieux, parce que j'étais dans le vrai garage.
Comme il avance, un texte invente son propre espace-temps et il imprime, comme on le lit, nos espaces et notre temps. Il arrive souvent qu'un livre qui vous marque marque aussi certains lieux en vous, qui pèsent dès lors un poids plus important et disposent d'un contour plus net. Ils offrent, en échange de cette mémoire que vous gardez d'eux, la possibilité de les visiter mentalement, des mois ou des années après la lecture. Aussi, vous vous souvenez, et c'est une chance, de la pelouse près du lac où enfin les lumières d'août de Faulkner se sont laissées lire. Vous vous souvenez d'un transat tout con où il n'était pas possible de vous éloigner des mémoires de Gerbrandt. Et vous vous souvenez précisément de l'adolescente en colère et de la petite chienne folle qui défiait le vent fou sur un bout de la plage de Bauduc lorsque vous finissiez le roman dont nous parlons aujourd'hui. En même temps que ces lieux, ce sont les textes qui reviennent, ce qui double le plaisir. Il est 14h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Nous savons lire les lieux de l'extérieur, deviner époque, matériaux qu'on trouvera à l'intérieur, les types de mobilier, les types de couloirs. Voilà comment Valérie Novelle décrit le savoir-faire des assistants metteurs en scène en charge des décors et qui les cherchent, les lieux. Parfois, on lui demande des choses apparemment très simples.
On devait avoir un point de vue sur une petite route où passe la voiture.
Mais pas simple du tout. Pour trouver cette petite route inscrite au scénario du petit Nicolas, elle a dû en parcourir un grand nombre. Récit vers 14h50. C'est le quatrième temps de ce chantier thématique consacré au lieu, quatrième et exceptionnellement dernier temps de cette série d'émissions. Et dans le roman qui nous occupe cet après-midi, le lieu est le point où se croisent momentanément des trajectoires de vie et qui le font clignoter plus fort, une maison arlésienne, une discothèque camarguaise, une forêt de Madagascar, une autre forêt beaucoup plus proche, une plaine désertique. Mais le lieu est aussi cet endroit de nous-mêmes ou des autres, plus radical, un endroit plus libre, plus audacieux ou joyeux, un lieu comme un sommet intérieur, impossible à visiter tout le temps mais dont il fait bon se souvenir. Le lieu est enfin la pierre aux mille couches dans laquelle se gravent les vies, les morts et les histoires et qui serait le lieu de la légende. Légende, c'est le titre de votre cinquième roman, Sylvain Prudhomme, il est publié chez Gallimard Collection L'Arbalète. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors je vous disais juste avant de prendre le micro que c'était une des lectures possibles qu'on pouvait faire de légende, évidemment c'est pas du tout la seule, on aurait pu parler de l'amitié qui est au cœur même de ce livre-là, on aurait pu parler peut-être plus profondément du rapport des bergers à ces bêtes, on aurait pu vraiment parler de beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on a choisi. Est-ce que c'est une lecture qui vous parle? Est-ce que vous diriez que ce roman il part aussi des lieux arpentés?
Absolument, c'est pas seulement vrai de ce livre-là, c'est vrai aussi de d'autres que j'avais fait avant. Ça, presque toujours, le point de départ, c'est l'envie de séjourner dans un endroit, dans un lieu, l'envie de, en fait, que se produisent des allers-retours incessants entre le livre que je commence à imaginer, à rêver, à fantasmer dans ces lieux et est-ce que le lieu vient à mesure que je le parcours vient faire surgir d'imprévus qui déplace au fur et à mesure l'histoire que j'avais imaginée. Je fais vraiment comme ça, je me promène beaucoup et très souvent ça. Oui voilà le livre presque est un prétexte au départ. Je sais que ça va être l'occasion d'aller de descendre plus avant, plus profond dans un endroit où j'ai envie de séjourner.
Et alors cet endroit, vous aviez envie de séjourner au moment où l'aller-retour avec lequel vous cheminez dans Légende, c'est quel lieu ? Nous, on en a choisi 3, mais vous, ce serait quoi votre séjour dans ce livre-là ?
Moi, je dirais que celui qui était premier, c'était la Croix, c'était la plaine de la Croix, à côté d'Arles. Cette espèce de grande steppe aride, il y a la Croix humide, celle où il y a le foin de Croix qu'on vend jusqu'à assez loin et tout, mais il y a la Croix sèche, celle qui est pierreuse, qui est ventée, qui est très très aride, très impressionnante quand on la voit, une espèce d'immense plat, très western, très avec des bergeries qui pour certaines sont là depuis 2000 ans, enfin voilà, avec les usines de Fos-sur-Mer au loin, avec des en même temps, il y a des grands entrepôts de logistique, c'est des trucs vendus par Internet, je pense, qui sont stockés là. Ça fait des grands hangars aveugles comme ça. Et ça c'était un décor qui me fascinait, où j'imaginais, j'avais envie de planter une histoire dans ce décor-là. Et je crois que ça, c'était premier. Avec l'accro photographié aussi par un photographe dont les photos m'ont marqué, m'ont montré la Croix, me l'ont fait voir. Je pense que c'est quelqu'un qui s'appelle Lionel Roux, et il a photographié ce grand plat d'une nacelle de 25 mètres, une nacelle de déménageur comme ça qu'il a amené au milieu de rien, et hop, il s'est levé et il photographiait ce plat. Tout ça c'était un peu au départ du livre.
Et justement, c'était la question de savoir, est-ce que vous avez cherché ce désert de la Croix ou est-ce que c'est plutôt un lieu qui vous a trouvé?
Je dirais que il m'a trouvé au départ parce que je le connaissais pas, c'est marrant. Je pense que c'est une la Croix, on la traverse, on est beaucoup de gens la traversent par l'autoroute, je sais pas, entre Salon et Nîmes, mais on se rend pas bien compte de on la voit pas très bien cette steppe parce que elle est le long de la route, il y a des arbres un peu, il y a des coupe-vent, et en fait petit à petit, j'ai découvert ces images qu'il a montrées, et là je suis parti me balader et je prenais des journées entières comme ça où j'allais en voiture et je prenais tous les chemins de traverse, c'est-à-dire que voilà, des pistes, et il y avait tout le temps marqué propriété privée, et j'allais tout le temps là dès que je pouvais, en fait, et c'est assez fou, on tombe sur des arènes privées, des chevaux de Camargue qui sont là sans trace forcément de propriétaires, des lieux à la ronde, des grandes tablées faites pour accueillir les ferrades, comme ça, tout ça au milieu de rien. Je trouve que c'est des décors de films incroyables, et donc après c'est délibérément que j'y suis allé beaucoup en essayant de commencer à réfléchir à quels endroits pourraient
être le début de la fiction, voilà. Initier la fiction.
Exactement.
Vous parlez de ce photographe Lionel Roux et de ces images qui vous montrent la Croix. Il se trouve que cette qualité de photographe, vous l'offrez à l'un de vos personnages, Nel, puisqu'on suit l'amitié entre Matt et Nel en 2015. On est dans une histoire très contemporaine où ces deux personnages sont extrêmement liés, et c'est de ce lien-là presque que transpire tout le reste et tout l'aller-retour aussi avec le passé. Est-ce que vous diriez que ce Nel, il a une façon de regarder la Croix, mais aussi Arles, la ville, mais aussi les gens qu'il rencontre, qui diffère de votre propre regard d'écrivain sur les paysages, sur les personnages, sur les histoires, ou est-ce que ça peut se confondre ?
Alors, c'est il y a un peu des deux. C'est je veux dire à la fois. Forcément, j'y mets de ce que je perçois des photographies de Lionel Roux. Enfin voilà, donc il y a un peu de son regard et en même temps, forcément aussi pour décrire, c'est un personnage merveilleux, un photographe, parce qu'on c'est un guetteur, un contemplateur, c'est le il passe son temps à promener son objectif dans la plaine, à guetter ce qui va en surgir. Donc évidemment, après moi, c'était un personnage rêvé pour ça, pour regarder
dans lequel peut se glisser le texte et la description, du coup.
Ouais, j'adore les personnages de photographes, enfin je sais pas, ça moi j'aime beaucoup décrire, j'ai l'impression que toujours le J'aime qu'il y ait un décor, que tout se passe. Enfin, après, ça peut être une histoire assez resserrée, mais j'aime qu'il y ait autour un cadre fort. J'ai revu il y a pas longtemps l'Inconnu du lac, ça n'a rien à voir et tout, mais je me suis dit, j'adore ce film, je le trouve merveilleux, et entre autres parce que on garde tellement fort après, longtemps après, l'image de ce lac qui est dans lequel on est pris un peu au piège et qu'on regarde scintiller. J'aime ces espèces de le côté table, je sais pas, table rase, quelque chose, une sorte de table d'opération où vont pouvoir où va arriver l'histoire. Et en voyant ce film-là, je me suis dit, ah, ça, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi, parce que j'aime ça, j'aime quand il y a ce décor. Ouais.
Qu'est-ce que c'était la chevancerie à l'époque, hein? Ben, ça avait la réputation d'être une boîte homosexuelle, mais il y avait sûrement moins d'homosexuels que maintenant. C'est surtout une boîte qui mélangeait toutes les catégories de gens, et les gens qui avaient de la monnaie, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui avaient de la monnaie, ils payaient pour les autres. J'ai vu des gens très très connus à la Churrascaria qui buvaient à côté de vous et qui se comportaient d'une manière très normale. Voilà. Des gens comme Briali, des gens comme Jeanne Moreau, voilà. C'était une boîte ouverte, en plus d'une boîte à l'époque où il n'y avait pas besoin d'avoir de videur, où il n'y avait pas besoin d'avoir une salle d'entrée, où il n'y avait pas besoin d'un service de sécurité, ce qui n'empêchait pas que de temps en temps ça fritait un peu. Et musicalement, c'est la première boîte où on entendait du rock, la première boîte où on entendait des disques qu'on ne pouvait même pas trouver parce qu'ils étaient importés. 65, les gens qui étaient très très branchés, qui s'habillaient d'une manière spéciale, qui se coiffaient d'une manière spéciale, qui écoutaient une musique relativement spéciale, alors que le reste, ils en étaient encore au pantalon intergal, aux chemises en acrylique, ils écoutaient de l'accordéon.
Je veux raconter cet endroit, avait dit Matt à Nell en revenant du rendez-vous. Il y a tout eu dans cette boîte, sur fond de taureaux et des temps de Camargue. L'exubérance joyeuse des années 60, la rébellion des années 70, les paillettes des années 80, la drogue, le sida, les premiers DJ, la crise des années 90, et même le tape à l'œil déprimé des années 2010, musique électro, vedette de la télé-réalité aux platines, volume à foutre un infarctus au grillon, entrée payante à 20 euros, conso à 10. Sur ce lent déclin, Matt avait sa théorie. La magie tenait à l'innocence, à l'absence de mots mis sur les choses. Dès que la fête prenait conscience d'elle-même, elle se corrompait, se déformait, perdait son âme. La grâce s'évanouissait. Au pur présent se substituait un temps perverti, mêlé de jubilation d'en être, d'appréhension que tout finisse, presque de mélancolie déjà. Ça l'avait frappé à la radio, la violente nostalgie des témoins. L'espèce de mythe que tous s'accordaient à saluer 40 ans après, répétant paradoxalement qu'alors personne ne s'en rendait compte. Que précisément tout tenait à cela, la parfaite inconscience collective de ce qui se passait. L'absence d'autres préoccupations que de s'amuser avec ceux qui étaient là, d'où qu'ils puissent bien venir, quel que puisse être leur âge, leur métier ou leur absence de métier, leur célébrité ou leur parfait anonymat.
Sylvain Prudhomme, c'est un premier extrait que vient de lire Romain de Becdelièvre, et c'est aussi le premier lieu, après cette fameuse plaine de l'Accro que vous avez décrit tout à l'heure. Ce lieu, c'est la discothèque Latchou, dont on entendait parler dans un documentaire d'Alexandre Hérault diffusé sur France Culture. Et juste après, c'est ce dialogue et peut-être la volonté exprimée dès les 20 premières pages, « Je veux raconter cet endroit ». Et en fait, c'est une idée qui va revenir assez souvent dans la pensée justement qui s'élabore d'un film qui va être en train de se faire. Je veux raconter cet endroit, je veux raconter cette vie. Vous avez voulu aussi raconter Latchou, cette discothèque de Camargue.
Disons que c'est un des lieux qui, à un moment, m'a arrêté, m'a fasciné. Je me suis vite rendu compte qu'effectivement, beaucoup de... elle avait marqué énormément de gens. Alors, les grandes années de Latchou, c'est plutôt effectivement les années 60, 70. Justement, cette innocence, cette inconscience de ce qui est vécu à ce moment-là, à cet endroit où des gens se mêlent de milieux sociaux très 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 variés, une espèce de coups du sort favorables à plusieurs reprises, parce qu'il y a des presque tout ce qui était fait pour entraver la fête finalement la décuplée. Il y a un moment où le manadier Jean Lafont, qui avait créé ce lieu au départ juste pour en faire un restaurant un peu pour ses amis quand il venait en Camargue pour qu'il puisse goûter la viande de ses taureaux, il était un peu débordé par la dimension que prenait le lieu. Il a essayé de commencer à faire un peu contrôler l'accès. Je sais pas, une fois il paraît qu'il a demandé à des policiers de venir un tout petit peu faire un semblant de contrôle, et du coup ça a créé un embouteillage qui est devenu mythique et qui a attiré le lendemain encore beaucoup plus de monde parce qu'il y avait eu 3 km de queue pour aller à la Chou. Autre chose, c'est un moment où on leur a demandé de prendre une licence et ils ont trouvé comme subterfuge en fait de se déclarer comme établissement où il y avait des spectacles. Et donc, une fois qu'ils avaient pris cette licence-là, il fallait faire des spectacles. Donc, ils en faisaient juste un par semaine, le dimanche soir, je crois.
Et quel spectacle,
voilà, avec un spectacle de travestissement, tout, chacun s'amusant et au départ faisant juste ça pour les copains. Mais ça aussi, c'est devenu mythique et ça a attiré de plus en plus de monde. Donc, en fait, moi, voilà, face à un lieu comme ça, j'étais très, à la fois, un peu fasciné. Évidemment, je suis allé me balader à la Chou, qui est une... Quand on la voit aujourd'hui, c'est une villa très jolie, mais toute simple, au milieu d'une pinède magnifique, qui est elle-même au milieu des prés à taureaux, des sansouirs. Donc c'est beau, mais il y avait surtout l'espèce d'émotion de savoir que ça avait eu lieu là, toutes ces fêtes. Mais aujourd'hui, j'en percevais rien. Je suis jamais allé à une fête de la Chou où il y avait cette ambiance-là. Et donc un lieu. Moi, au début, je me suis dit, c'est une des premières pistes. Nel est photographe, donc lui, il arrête le temps et Matt lui fait des documentaires. Donc lui cherche des histoires, il redéploie justement du temps, du récit. Et face à la Chou, il a l'intuition que on peut raconter beaucoup de choses avec un lieu comme ça. Et en même temps, la difficulté face à un lieu dont l'histoire se situe pour beaucoup dans le passé. C'est que faire, que filmer. Donc, évidemment, il a. Même moi, dans le livre, j'essaie pas de représenter la Chou, la fête en acte aujourd'hui. Je préfère passer par un dispositif de où on entend une émission moi aussi j'ai écouté l'émission d'Alexandre Hérault qu'on a entendu et c'est un peu cette émission là qu'ils écoutent et il y a des témoins qui parlent et qui racontent des choses mais elle a clairement le statut d'une légende qui est aussi inaccessible. Que faire d'une légende? Donc, petit à petit, c'est pour ça que le documentaire de Matt va glisser vers deux figures de ce lieu, plutôt que sur le lieu tout entier, en fait. Il va s'arrêter sur deux frères qui ont été des figures emblématiques et là, dont la trajectoire, elle, est peut-être davantage. C'est davantage possible de la raconter, de la retracer.
Parce qu'on va. Passer justement de la fascination, mais aussi d'une forme de méfiance, une belle méfiance à l'égard du mythe et de la légende, au rapprochement de l'échelle de l'être. Et d'un seul coup, bien sûr qu'il y a toujours possibilité de se méfier de la légende d'un être, puisqu'il sera aussi question de la légende autour de ces deux étoiles filantes que sont les deux cousins de quels va se rapprocher Matt. Mais cependant, on a l'impression que... Il est moins méfiant que pour raconter la légende de la Chou. D'un seul coup, il y a comme une échelle qui lui parle. Et d'un seul coup, il y a comme aussi quelque chose qui vibre en lui. C'est que raconter une histoire, raconter des morts, raconter une époque, devient comme existentiel.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est plus... C'est davantage possible d'essayer d'imaginer ce qu'a vécu un homme ou une femme, enfin, ou là en l'occurrence c'est deux frères, et d'essayer de descendre en eux, de se mettre à revivre après coup, d'essayer d'imaginer ce qu'ils ont pu traverser. C'est davantage possible que de raconter toute une histoire, une histoire collective. J'ai l'impression que c'est par des destins individuels qu'on arrive à la saisir, parce qu'il y a quelque chose de très vite dangereux, quoi, dans la célébration après coup d'un moment collectif. On peut très vite se mettre à entrer en pilote automatique, quoi, et je veux dire à dire c'était extraordinaire, c'était la fête, et en fait on enchaîne les superlatifs sans réussir à le, voilà. J'ai l'impression que c'est en passant par des êtres, deux frères assez très très dissemblables et en même temps tous les deux animés de la même euh, de la même vitalité, de la même envie de vivre comme ça très intensément, et ben on retrouve en fait plein de choses de ces années-là, justement cette maladie, le grand mal des années 80, le sida, enfin beaucoup de choses qui racontent en fait ce que tout le monde a vécu à cette époque-là, mais simplement c'est plus facile à saisir à hauteur d'homme, je pense.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux. I never saw the truth hanging from the door. And I will only see you face to face. And I will only gotta get up clean the place. And I was green. Flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be.
Raconter leur royaume d'alors. Une maison inoccupée 9 mois par an à proximité des arènes, en plein quartier haut. Fabien laissé seul aux 2 étages supérieurs par des parents absents, installé sous les tropiques, à 10 000 km de là, abandonné sans autre chaperon qu'une vieille grand-mère aux jambes défaillantes, condamné à rester le plus clair du jour dans son fauteuil au rez-de-chaussée. Il avait raconté les salutations à la grand-mère impotente en arrivant. « Bonjour mémé, est-ce que Fabien est là? Est-ce que je peux monter le voir ?» Raconter l'absolue liberté sitôt franchie, la première volée de marche. Bonjour mémé. Et sitôt embrassé les joues de la vieille grand-mère, nous nous ruions à l'étage, avait raconté Toussaint. Retrouvions le papier peint bleu 1920 de la chambre du premier, la fumée des cigarettes amies, le bruit des voix familières, les visages des camarades épars aux 4 coins de la pièce. Certains accoudés à la fenêtre, d'autres enfoncés dans le canapé ou assis sur le lit, les murs couverts de disques et de livres, albums tout juste rapportés de Londres et de Los Angeles par une amie hôtesse de l'air, derniers romans érotiques américains, vinyle des années 1930, édition défraîchie de Walter Scott, de Cocteau, de Huysmans. De dehors, la maison était banale. Sa façade sans charme, plutôt avare en ouverture, rez-de-chaussée bardé de grilles, enduit grisâtre. Au premier étage pourtant, il y avait ce cocon, cette grotte d'où s'échappaient chaque soir par les fenêtres des éclats de voix et de musique qui devaient arriver aux oreilles des voisins, les intriguer, les agacer, leur massacrer le sommeil passé une certaine heure, avait dit Toussaint. S'étonnant rétrospectivement de la patience du voisinage d'alors. La bande d'adolescents peut être trop féroce, nos regards trop arrogants, avait-il dit, nos bonnes notes à l'école trop écrasantes.
C'est le deuxième extrait, Sylvain Prudhomme, de votre livre « Légende ». Et c'est le deuxième lieu dans lequel on s'arrête. Ici, on est dans une maison banale de l'extérieur, en plein Arles. Et on est passé du côté de la vie de ces deux hommes, à l'échelle desquels se met le regard de Matt, de ces deux comètes, dit la quatrième de couverture, qui traversent les années 80. Là, en l'occurrence, on parle de Fabien et de cette maison dont on voit dans votre description le papier peint, le rez-de-chaussée, la grand-mère, l'étage... Et l'idée de la liberté, pour vous, c'est le décor de quoi ? C'est le lieu de quoi, cette maison arlésienne ?
C'est une espèce de royaume, d'une enfance, d'une adolescence dont la liberté me faisait un peu rêver, en fait. Dans une ville où j'aurais pas imaginé que dans ces années-là, il y a eu une bande de jeunes, très 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 romantiques aussi, mais en fait, finalement, surtout la chose qui crée leur liberté, c'est l'absence de parents, en fait, un côté enfant terrible comme ça, absolument livré à eux-mêmes. Ça, moi, ça me, je sais pas, ça me, quand voilà, en fait, en entendant parler de ce microcosme qui avait existé comme ça dans une maison du quartier, c'est le quartier de Lauture, tout près des arènes. La façade aujourd'hui, là, je suis pas rentré, je connais pas cette chambre bleue, mais on m'a tellement parlé de cette chambre bleue où venaient comme ça des bandes d'adolescents, les parents, donc voilà, avec des parents qui sont à 10 000 km de là. Et je sais pas, tout qui devient possible presque trop tôt. Enfin, je sais pas si jamais c'est normatif. En tout cas, avec un gouffre qui s'ouvre, un gouffre de liberté, de possible, et je sais pas, une maturité qui du coup vient très vite, des enfants, qui très vite prennent ouais, je sais pas, une expérience de la vie, et qui tous sont dans une recherche de l'intensité, en fait, que tant pis si c'est des chagrins d'amour terribles, tant pis si c'est des pulsions suicidaires, mais il faut qu'en tout cas tout soit intense, tant pis s'il y a des bagarres, l'obsession, c'est de ne pas mourir avant l'heure d'extinction, de fadeur, en fait. Et évidemment, ça joue un peu pour, je sais pas, quand on, moi, pour moi, ça, il y a un côté utopie et ça me renvoie aussi à quelque chose qui est ses parents très très éloignés, cette espèce d'enfance entre deux pays. Moi j'ai eu ça enfant, enfin, c'est-à-dire que bon, j'étais souvent avec mes parents, mais en tout cas on avait cette vie où on habitait pas à Madagascar là, mais à l'île Maurice et dans beaucoup de pays d'Afrique. Après mes parents étaient repartis, et donc j'étais avec ma sœur, je sais pas, on avait ce côté un océan entre nos parents et nous. Et j'ai vu aussi revenir beaucoup de copains de là-bas qui étaient comme nous des enfants de coopérants, et j'ai vu leur retour en France, en fait on a goûté à une telle liberté là-bas, un tel que le retour à la vie au réel de la France était parfois difficile, quoi, en fait. Donc ça me touchait beaucoup dans le destin de ces deux frères, cette distance.
Parce que je disais que dans la lecture qu'on propose de ce roman-là, et en parlant des lieux, il y a évidemment tous ces lieux-là, donc la plaine de Croix, il y a cette discothèque, la Chou, il y a cette maison arlésienne qui abrite leurs adolescences, leurs violences, l'alcool, la drogue, les amours, les chagrins. Mais il y a aussi l'idée de justement ce lieu de soi. Je parlais en introduction d'un sommet intérieur, mais il y a vraiment ça, on a l'impression que vous mettez aussi en lumière des jeunes gens qui sont morts trop tôt. Ils voulaient ne pas mourir avant l'heure, mais ils sont d'une certaine manière morts avant l'heure, mais qui ne voulaient visiter en eux qu'un lieu de sommet, qu'un lieu incandescent, qu'un lieu intense. Il dit « Je jure d'être toute ma vie élégant et libre ». Vous regardez ça comment ? C'est quelque chose qui vous a semblé appartenir au passé complètement, cette exigence-là ?
Je ne sais pas si on peut la situer dans une époque. Enfin, c'est certain qu'elle était peut-être plus représentée à cette époque-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont dans la même recherche d'intensité. Je pense que c'est quelque chose qui nous... En tout cas, moi, évidemment, ça me renvoie à... Bien sûr, à quelque chose que je recherche aussi. Je sais pas, là, il y a clairement de leur côté une audace de chaque instant, tout simplement beaucoup de liberté en fait, et d'envie d'essayer tout. Moi, je suis convaincu que je sais pas s'il y a une vérité de la vie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis convaincu que c'est que vivre, je sais pas, une vie belle, c'est une vie qui a essayé des choses. En fait, c'est sûr que ces personnages, ils jouent pour Mathenel, qui sont des personnages beaucoup plus proches de moi, parce que ils font des documentaires. Enfin, je sais pas comment dire, ils sont plus des regardeurs, des conteurs, que ils sont moins dans la vie au premier degré que dans le revécu, enfin, ou le récit du vécu. Donc, clairement, il y a ce partage. Ça me renvoie à cette différence. Et en même temps, plus j'y pensais, plus je me disais, c'est vrai, moi je suis pas dans cette audace de la vie de chaque instant. Enfin, et en fait, j'ai réalisé à mesure en travaillant sur ce livre et tout que tout ce temps que je passais à visiter des lieux, à retourner sur les traces de gens qui avaient vécu, tous les l'amitié très très forte avec Lionel Roux, qui était complice de tout ça, enfin, qui a très bien connu les deux frères qui ont inspiré les personnages, tous ces moments-là étaient d'une intensité extrême, et ça a suscité aussi beaucoup de beaux moments avec d'autres témoins, des gens qui avaient connu la Chou. Et à la fin, je me disais, mais non, c'est pas du tout le même chemin de l'intensité, mais qu'est-ce qu'elle a été intense cette année d'écriture, je me suis senti vraiment, en fait, c'est pour de vrai que ça me rendait plus plus vivant, quoi. Enfin, le même si jamais c'était des histoires tragiques, même si jamais s'ils sont morts très jeunes et beaucoup trop tôt, ça met très haut la barre de ça met très haut le prix de la vie, et donc on a envie d'être digne de ça et de pas perdre une seconde non plus, pas forcément pour se ruer dans mille expériences, mais en tout cas d'essayer de toujours choisir où on est et d'être toujours dans l'intensité, en fait.
Est-ce que ça venait justement cette année où vous avez été comme presque retraversé par la vague de vide et d'incandescence et d'intensité de ces jeunes gens-là, ça venait en partie de la possibilité que vous aviez de passer du temps dans ces lieux-là ?
C'est certain que je crois que tout est lié au temps, mais plein de choses de la vie sont liées au temps. Et en fait, moi, je vois quand je démarre un livre sur quelque chose, ça m'oblige presque à prendre ce temps. Même dans un métier qui est l'écriture, où quand même on est très privilégié, je veux dire, par rapport à d'autres métiers, on a du temps puisqu'on on prend beaucoup de temps pour ça. Même dans ce métier-là, c'est pas facile de se dire. Allez, je prends cette semaine, je fais rien, j'écris rien, je dis rien, je vais juste me balader, je vais. En fait, on a tellement l'habitude de toujours de faire des choses, de s'occuper, on a toujours des choses à faire, toujours plein, et je crois que c'est vraiment quand on rouvre le temps, quand on se dit je suspends le reste, c'est là que beaucoup de choses adviennent du côté de l'intensité, justement.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez vu passer ces comètes, ces étoiles, avec leur face noire. La Chou, il y en a une de face noire, mais pour ces deux jeunes gens dont vous racontez un petit peu plus précisément la vie, quelle est la face noire de la manière, si vous la considérez d'ailleurs plus sombre, hein, pas forcément, moi je la considère plus sombre, mais peut-être pas vous.
Ils ont une face sombre, enfin les personnages en tout cas, ils ont... je sais pas si elle est noire, ils ont beaucoup de facettes, quoi. Enfin, et ça c'est l'effet aussi de... du fait d'avoir fait appel à plusieurs témoins, je sais pas, en fait, ça, petit à petit, ça complique le mythe, ça complique la légende, l'idée qu'on s'en fait en tout cas au départ. Les deux frères, il y en a un clairement, donc il y en a un qui est Stewart et qui du coup fait la fête un peu dans plein de capitales du monde, à la la vie de steward dans les années 80, à l'époque où c'était un métier qui était très prestigieux quand même, très admiré de tout le monde, et où on allait dans toutes les capitales. Et donc c'est un héros pour beaucoup de gens dans la ville. Et l'autre est plus, en apparence, plus... Il est clairement plus orageux, plus sombre, plus tourmenté. Et lui vit à Madagascar, où il attrape des insectes. Disons que, à première vue, il y en a un qui est très solaire, très charismatique. C'est celui qui est dans la chambre bleue, qui est entouré comme ça de très nombreux amis. L'autre plus solitaire, plus bagarreur, plus dur. Et en fait, à mesure que l'écriture du livre avançait, que je recueillais des témoignages, en fait, finalement, ou peut-être c'était moi aussi, j'avais envie je trouvais que les choses s'inversaient parfois. Celui qui était solaire, on lui découvrait aussi parfois de la oui, une forme de dureté, en fait quelque chose d'un peu sauvage tous les deux, en fait, qui c'est l'autre face de leur liberté, quoi, quelque chose de très d'insoumis.
Qui, contrairement aux insectes, ne se capture pas du tout, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'ils ont toute une tradition de chasseurs d'insectes qu'on épingle. Ouais. C'est comme si eux deux, c'était impossible de les clouer et aussi d'en faire une légende propre, quoi, unique.
Ça me plaît, cette idée. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'étais frappé de voir que leur métier, enfin le métier, en tout cas celui qui était à Madagascar, ça avait été de faire des planches d'insectes comme ça, de
bien
répertorier
classé,
les spécimens, d'être quelque chose qui est du côté de l'ordre. Et oui, eux me semblaient infiniment du côté de la, oui, du débordement, de la dépense, et certainement pas de la soumission à un classement quelconque, quoi.
Alors chacun avait pris son sac et la descente avait commencé. Les brebis s'y pressaient au début qu'ils n'avaient pas même tenté de les suivre, se contentant de les regarder dévaler la pente dans l'herbe gorgée d'eau, couler vers le bas de la vallée par toutes les lignes du relief comme les cascades et les ruisseaux grossis par la pluie. Une centaine de mètres en contrebas, le terrain s'aplanissait et les bêtes étaient arrêtées là, au bord de la rivière. Elles avaient rechigné au départ à s'engager dans l'eau glacée, mais les chiens les avaient poussées. Forcées de s'élancer alors, les premières avaient trouvé le guet, aussitôt suivies d'autres cavalant comme elles à grand bruit de sonnailles. Chaque bête se jetant dans les pattes de la précédente, comme pour un sprint. Le troupeau entier traversant enfin, s'étirant pour passer comme à travers l'entonnoir d'un sablier, cela pendant une ou deux minutes, reprenant sur l'autre rive ses aises, respirant à nouveau, les bêtes soulagées recommençant de paître. Pendant plusieurs heures encore, ils étaient redescendus sans plus sentir la pluie. Matt adressant de temps à autre des signes à Nell pour lui dire sa joie d'être là, les centaines de culs laineux ondoyant devant lui sous l'orage, se soulevant au passage des rochers comme une vague, reprenant de l'autre côté leur coulée inarrêtable, tantôt rapide comme les eaux d'un fleuve, tantôt presque immobile, le chemin trop étroit, les brebis à l'arrêt, flanc contre flanc, comprimées les unes contre les autres, au point de devoir tendre le cou par-dessus la nappe laineuse, pour respirer en attendant que le passage se rouvre, leurs centaines de têtes roses et blanches semblant surnager, les étiquettes en plastique à leurs oreilles, pareilles à des bijoux fantaisie. «
C'est un troisième lieu qu'on traverse dans votre roman grâce à la lecture de Romain de Bec-de-Lièvre, Sylvain Prudhomme. C'est la fin du livre. Il y a des bêtes, une forêt, de la pluie. Et on retrouve ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire votre premier attachement aux alentours de la ville d'Arles, la Camargue, la nature, ici la forêt. C'est un lieu qui a quel statut, notamment comment est-ce que vous expliquez qu'on termine comme ça, en fait ? On termine dans cet endroit-là, avec les bêtes. Tout à l'heure, vous parliez du caractère sauvage des deux êtres que vous décidez de raconter. Il me semble qu'on termine avec une forme de caractère sauvage de ce décor.
Ouais, absolument. C'est-à-dire que moi, j'aime quand les choses déraillent un peu au bout d'un moment. Enfin, c'est-à-dire que Matt, au départ, il a pensé faire un documentaire sur la choux. Après, il s'est mis à se pencher de plus près sur ses deux frères. Et l'idée, c'est que je sais pas, en fait, c'est que ça soit un peu initiatique pour eux deux, pour Nel et Matt. Nel refait 25 ans après le deuil de cousins qui étaient des héros un peu pour lui. Et Matt, en fait, moi, j'avais envie qu'il vive un peu ce que j'avais vécu, c'est-à-dire que se trouver complètement débordé, là aussi on parlait tout à l'heure des classements, c'est l'insecte mort qu'on peut épingler. Là il est suivre la piste de ses deux frères, et ben ça lui fait exploser son documentaire par toutes les coutures, en fait. Et je sais pas, en fait, c'est vrai que moi, petit à petit, en enquêtant là sur toute cette histoire, je me suis retrouvé entraîné dans ce monde-là. En fait, Nel, le personnage, est fils et petit-fils de berger. Et Matt, en enquêtant sur ses cousins, sur les deux frères qui sont ses cousins, se retrouve forcément un peu à enquêter sur la famille de Nel, et donc entraîné dans son monde. Et c'est moi, je voulais que ça soit comme, c'est comme ça que je l'ai vécu, comme une, en fait, finalement, tout ça le fait entrer en fusion un peu avec le lieu, et pour la première fois il accède au lieu et voilà, j'avais envie que cette redescente d'estive, ça soit un moment où justement il pleuve très fort, et c'est-à-dire que du coup ils sont obligés, ils doivent renoncer à tout, ils doivent ranger les caméras, les appareils photo, et il y a cette espèce de résignation à vivre, simplement à être dans les choses, à y descendre et à perdre toute distance, en fait. Et donc moi, je voulais que voilà, il soit la grande leçon que leur aient donné les deux frères à des années de distance, c'est ranger tout et vivre. Non pas que je pense qu'il faille tout ranger, je crois profondément au documentaire et tout ça, mais j'avais envie que eux, dans leur vie d'individu à ce moment-là, en fait, qu'ils ont la quarantaine, ils sont à peu près au milieu de la vie, ils sont à peu près à l'âge où les deux frères sont morts, eux, et ben c'est ça qu'ils ressentent, l'envie de descendre dans les sensations, de plonger, et donc oui, j'avais envie que comme ça la redescente d'estive avec la coulée des brebis, ben, répondent face pendant à la marche de plus en plus sûre des frères vers la mort, en fait, et que il y en ait, eux, soient de plus en plus vivants, les deux amis, au moment où les frères allaient dans le mur.
Ouais. Et votre façon de les rendre extrêmement vivants à la fin du roman, mais aussi réconciliés, et comme aussi réconciliés avec le présent, parce que c'est tout un livre qui ne cesse de brasser du passé quand même, à travers le récit des témoins, à travers, je sais pas, aller sur les lieux de la choux, mais aussi n'être que devant la façade de cette maison arlésienne. Toujours, c'est un regard qui regarde derrière, alors qu'avec cette descente-là, des bêtes, la forêt, la pluie, il y a quelque chose qui est très ancré dans le présent. Et il y a aussi quelque chose, il m'a semblé que c'est un livre qui réfléchit beaucoup à ce que c'est que de raconter la vie des gens, et du coup par conséquent ce que c'est que la vie des gens, et aussi par conséquent se rendre compte que c'est pas grand chose, ça laisse des traces mais c'est pas grand chose. C'est comme si terminer dans la nature, c'est aussi votre façon de dire que ça, c'est plus long, c'est peut-être un peu plus durable, c'est peut-être un peu plus solide, c'est peut-être un peu plus à long terme, cette plaine de crocs, cette forêt, ces bestioles.
Ouais, absolument, c'est vrai que Ouais, c'est ce que je ressentais en étant là-bas, enfin en dormant sous la cabane là-haut avant de redescendre avec les bergers qui les éleveurs qui redescendaient leurs bêtes. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose devant quoi on s'incline aussi mais je sais pas comme ouais, en fait je sais pas dans tout le livre mais moi je trouve dans beaucoup d'histoires que j'aime, enfin c'est la grande question, c'est comment est-ce qu'on accepte ça, comment est-ce qu'on apprend ça, le fait que bah oui, on va passer et voilà, et ça peut être c'est beau malgré tout, on va passer mais c'est beau et j'aime les moments où on progresse, on n'a jamais fini de l'apprendre, mais où on progresse tout doucement vers cet apprentissage. Enfin voilà, ouais, ça veut pas dire du tout de la résignation, parce que au contraire, je trouve la vie est belle. Le fait que je sais pas, c'est cette chose que j'ai toujours envie de raconter, c'est le fait que les choses vont finir, et pourtant tout est d'autant plus dans la façon dont on va les vivre, et dans la façon dont on va saluer la vie, et on va la rendre, savoir l'inventer, la rendre belle. Et donc les personnages qui me touchent, c'est toujours ceux qui font un sacré beau tour de piste, et il peut y avoir mille façons de le faire, vraiment c'est pas du ouais voilà Fabien en fait un que je trouve voilà qui me touchait, mais je veux dire il y a pas besoin d'être très charismatique comme lui l'est, ce personnage-là, je veux dire, enfin, en tout cas, le frère dont il est inspiré. Je pense qu'il y a mille façons de faire son tour de piste, mais on sent quand la façon dont quelqu'un a été, a traversé, ben, si ça a été beau, on le sent tous et ça nous touche, enfin.
Pour être l'écrivain de quelque part, il faudrait déjà que j'ai une espèce de petite idée sur d'où je suis. Et ça a toujours été un petit peu un problème, soit pas un grand problème, mais quand même, moi j'étais parisien, j'ai habité dans l'appartement où ma mère était née, où mon grand-père habitait déjà. Et cette idée d'être un parisien, ça me semblait toujours un peu bizarre au moment des vacances, où tous mes camarades de lycée retournaient chez eux au moment des vacances, et moi ils me regardaient d'un air de dire « mais toi tu retournes où ?» Et je disais, mais je sais pas, je suis parisien, je suis d'ici. Donc c'est un peu cette idée aussi après de rapport aux racines. Savoir est-ce que j'ai un endroit où je me sens vraiment chez moi. Donc j'ai plutôt un petit peu cherché, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup voyagé, qu'on s'est installé dans beaucoup de pays et d'endroits différents. Et je m'aperçois qu'en fait c'est toujours une espèce de géographie qui résume un petit peu des tas d'endroits où j'ai vécu. Et qui me servent en plus dans le déroulement des fictions que je mets en place. Mais ça me venait aussi de Faulkner ou des gens comme ça qui se contentaient pas d'inventer des personnages, mais qui mettaient en place une géographie. Donc je me disais, ma fiction, elle doit aussi s'approprier le lieu.
On finit avec la voix de Philippe Jean, au micro de Sylvain Bourmeau, pardon, dans un Avoir Nuit diffusé sur France Culture, qui parle de la manière dont des géographies qu'il rencontre dans sa vie d'humain, j'imagine, mais aussi des géographies qu'il crée dans ses livres, sont toujours des formes de résumés de géographies dans lesquelles il a vécu. Et il m'a semblé, en lisant ce livre, qu'il n'y avait pas rien à voir avec, par exemple, les grands, avec des poussières qu'on peut trouver dans votre description d'une certaine Afrique, comme s'il y avait une forme de réponse des lieux entre eux, et comme si tout de même, dans la géographie que vous mettez en place dans ce livre-là, Légende, il pouvait y avoir un rhizome et des fils qui partaient vers d'autres de vos géographies à vous.
J'en avais pas conscience. Au moment où j'ai entrepris ce livre, j'avais plutôt pris la décision de me déplacer complètement ailleurs, enfin de revenir en France, et donc je voyais plutôt la rupture. Après, me sont apparus effectivement beaucoup de, je sais pas, en tout cas quelques parentés entre ces endroits. C'est vrai que moi j'aime bien situer les choses dans des bouts de terre un peu finalement qu'on un peu oublié, ou enfin un peu là la Croix, elle est beaucoup moins elle est beaucoup moins photographiée, beaucoup moins souvent représentée que la Camargue, par exemple. Et je sais pas, je crois que j'aime bien les lieux effectivement assez j'aime bien, les deux sont très plats. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le fait que peuvent surgir des silhouettes dans une assez grande netteté, et tout va être dans la façon dont on va suivre, on va regarder des hommes passer sur cette plaine, enfin, ou ce plat en tout cas.
Exactement, ça revient à ce que vous disiez au tout départ, c'est-à-dire que cette plaine que vous découvrez à travers les photos de Lionel Roux, c'est comme une sorte de table de laboratoire d'où vont surgir des choses, que vous disiez tout à l'heure. Et c'est vraiment la sensation qu'on peut avoir. Évidemment, ce sont deux endroits très différents, que le décor des grands et puis les décors qu'on traverse dans Légende. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des décors qui ont à la fois une très grande importance, des lieux qui ont une très grande importance, et en même temps qui laissent une place extrêmement importante aux destinées humaines qui vont les traverser.
Ouais, ça, moi, c'est ça en fait, que comme c'est vrai que c'est ça que j'essaie de raconter. Oui, j'aime bien peut-être aussi que ce soit un peu dégagé, quoi, qu'on
place.
Puisse voir de loin. Ouais, dans les tableaux, je suis toujours très touché par la silhouette humaine quand on la voit quand elle est petite. Je sais pas. Mais je sais pas, Caspar Friedrich, le moine au bord de l'eau, et plein de l'homme vu au loin, en fait, dans sa, c'est tout petit dans l'immensité, en fait. Ouais, voilà, ça me touche toujours, je sais pas, ça m'émeut comme pareil. Il y a un texte que beaucoup de gens ont déjà lu, moi je l'ai lu il y a pas longtemps, mais entre ciel et terre de Kalman Stefansson, et c'est ces hommes perdus comme ça, des pêcheurs de morue au milieu de l'immensité des montagnes et de la mer et du froid. C'est ça que j'adore essayer de raconter. Ouais.
Vous écoutez France Culture,
Les Nouvelles Vagues,
par Marie Récheux.
14h52 sur France Culture. Eh bien, on va écouter les histoires de Valérie Novel. C'est la quatrième histoire en lien avec un lieu. Des lieux, elle en cherche, car elle est assistante metteur en scène en charge des décors. Aujourd'hui, elle cherche une route.
On devait avoir un point de vue sur une petite route où passe la voiture. Là encore, c'est un film d'époque. Donc, les contraintes, c'était d'avoir une route de campagne qui ne soit pas marquée au sol. Bon, tout ça en région parisienne, proche de Paris. Hein. Il n'y a pas de scories contemporaines, etc. Et puis, ça a l'air rien de... Comme ça, quand on voit une voiture passer dans un paysage, dans un film, on ne se rend pas compte, en fait, le travail que ça demande, si on fait vraiment bien les repérages, parce qu'en fait, la caméra, elle n'est pas sur la route. Donc, nous, pour proposer des routes... Il faut avoir une connaissance de la région, donc c'est sûr qu'on se dit peut-être plus ce coin d'Île-de-France où je peux encore trouver des petites routes comme ça un peu pittoresques. Et puis c'est trouver le bon point de vue. L'image va être belle, harmonieuse, ou ça va offrir plusieurs points de vue au réalisateur suivant ce qu'il souhaite tourner. Donc en fait, ça consiste à faire quelques centaines de mètres, monter sur une colline, marcher dans des champs, s'enfoncer dans la boue, prendre des points de vue comme ça tous les 300-400 mètres pour avoir donner une image à peu près de ce que pourra rendre la scène au réalisateur. Parce qu'après, quand on revient en repérage avec les réalisateurs ou les réalisatrices, voilà, on ne va pas faire toutes les routes, on va peut-être en choisir une ou deux. Donc... pour que le travail soit vraiment efficace et ait un sens, il faut que nous, on balise le terrain, quoi, qu'on lui propose plein de points de vue différents, avec des focales différentes. On revient avec des photographies la plupart du temps. En général, on essaye de faire des photographies au niveau de la focale le plus neutre possible, pas avec des grands angles ou des trop longues focales. Sauf, après, on peut donner du détail, on peut montrer des fonds, donner des flous sur les arrières, voilà. Des détails pour nourrir, lui montrer un peu la matière qu'il va avoir à l'image. Puis ça dépend des séquences. Une séquence de restaurant, on va être net sur les personnages, flou derrière. Donc là, en effet, on peut... Mais avant tout, des images descriptives du lieu, sans effet. Et parfois aussi, alors c'est vrai que pour les trajets en voiture, sauf que là, on filmait la voiture. Donc on n'était pas à la caméra à l'intérieur de la voiture. Il m'arrive de filmer de l'intérieur de ma voiture.
Vous le savez tout de suite si sur la photo ou sur place, sur le lieu, la réalisatrice est convaincue?
Ça dépend beaucoup des réalisateurs et des réalisatrices. Il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui se projettent tout de suite dans les lieux, d'autres qui ont besoin d'être sur place, certains qui vraiment se remettent beaucoup à leur chef décorateur. Donc il n'y a pas vraiment de... Nous, on sait quand il y a un lieu qui a une valeur de décor. Donc, parce qu'après, nous, on propose des lieux qui vont devenir les décors, mais il y a évidemment les chefs décorateurs qui interviennent, la lumière, le choix de la lumière, enfin, tout ça va nourrir. Hein. Nous, on apporte la base et puis elle va être enrichie par toute l'équipe. Mais en tout cas, on le sait, et il n'y en a pas tant de ça, des beaux décors. On se dit, tiens, là, c'est bon, quoi. Ça, c'est... Peut-être que ça va plaire au réalisateur ou pas, mais c'est un vrai lieu.
La route qui mène à Vegas, je nous y vois encore. Elle et moi, on avait la classe dans notre voiture de sport. Main dans la main, on se sourit parce que demain, on va se dire oui. C'est grave comme c'est bien quand on se marie. Ça, je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit. Dans le poste, y'avait un Jackson, Just Can't Stop Loving You. Elle et moi, jouait du klaxon, qu'est-ce qu'on était dans le coup. Elle roulait bien, notre Ferrari, c'était pas rien, on était bien partis, ouais. C'est grave comme c'est bien, quand on se marie, ça je m'en souviens, parce qu'on s'était dit oui. Moi je pensais que c'était pour la vie. Marine, c'était pas pour le film. Qu'on était à l'autre bout du globe, que je t'avais enfilé cette robe. C'était pas pour faire snob, c'était pas pour la frime. Moi j'étais in love. Moi j'étais in love. Moi j'étais in love. Bienvenue au César Palace, au bord de la piscine. Pour la fête, y a pas meilleure place. C'était dans le magazine. Des magiciens, des confettis, des musiciens qui jouent du funk. C'est grave comme c'est bien quand on se marie. Ça, je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit.
Las Vegas de Mathieu Bogart pour terminer cette émission en beauté. Merci beaucoup Sylvain Prudhomme d'avoir été avec nous pour parler de ce livre Légende. C'est aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Merci. Merci. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut continuer d'échanger sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais aussi franceculture.fr, et télécharger l'émission en podcast et la partager autour de vous. Un grand merci à Romain Debec-de-Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise, Michael Simon à la suggestion musicale, Élise Le aux manettes, Victor Button au droit d'auteur.